nous allons continuer cette pénétration dans pour qu'on puisse en être envahi à l'intérieur de manière sensible aussi de ce sacerdoce éternel. Parce que l'alliance d'amour et de bonté éternelle que le Père Esprit Saint établit au-dedans de nous est une alliance selon l'ordre du roi Melchisédek. Melchisédek, le grand prêtre. On oublie souvent que l'Eucharistie, au cœur de l'Eucharistie, il y a la présence d'un ange de domination glorieuse, le prince et le roi de la paix. Melchisédek. Et cet ange du sacerdoce éternel de Dieu, un prêtre, c'est quoi? C'est le prêtre, c'est un médiateur, c'est un trait d'union. C'est celui qui fait l'introduction de l'un dans l'autre et de l'autre par l'un. La relation de l'un, c'est l'autre. L'un, c'est la relation de l'autre. Quand on est dans l'un, dans le oui de l'un, lorsqu'on est un avec Dieu, lorsqu'on est ce mouvement éternel d'amour qui s'est concrétisé par la Créateur de Dieu dans une petite goutte de sang, nous sommes ce mouvement éternel d'amour qui s'est réfugié dans une croûte de sang par la Créateur de Dieu, c'est moi, je suis cette petite goutte de sang qui est en réalité la manifestation incarnée, vivante, lumineuse du mouvement éternel d'amour. Il faut que j'accepte ce que je suis un avec le mouvement éternel d'amour de Dieu. Telle est la signification de mon corps originel, de mon oui originel, la nourriture de ma liberté actuelle, primordiale et définitive, ainsi que celle que j'obtiens de l'accomplissement de l'un, de la très sainte Trinité dans le sang. Et cette unité, cette relation, ce trait d'union qui fait que l'un est dans l'autre, l'autre dans l'un, qu'est-ce qui fait ce passage? C'est le sacerdoce d'amour, cette médiation d'amour éternel. Donc quand Dieu a créé, quand Dieu a avant de créer le premier être humain, avant de créer la première particule de matière dans le temps de notre univers, la première parcelle de notre univers créé, avant d'avoir établi, et en plus on ne peut même pas dire avant, c'est dans son union hypostatique de principe créateur, il a établi le monde céleste, angélique. Le monde céleste et angélique sont des êtres purs, lumière. Vous ne savez pas, c'est pas moi qui vous apprends quand même que l'être angélique, la substance angélique, l'essence angélique, l'espèce angélique, c'est une intériorité, c'est une création, c'est une substance de lumière immatérielle, contemplative, pure. Et il y a quand même pas mal de centaines de milliards, pas mal de centaines de milliards d'anges créés par Dieu avant la création de l'univers. C'est pas avant, c'est dans le Bereshit, il y a la création du ciel, et en même temps, aussitôt, la création de notre univers. En principe, Dieu créa le ciel, le monde angélique, la terre. Et puis ensuite, il dit que la lumière soit, et la lumière exista. Donc parmi ces anges, il y a Melchisédek. Aussitôt, il y a un des anges qui va être ce trait d'union de l'un dans l'autre, de l'autre dans l'un, puisqu'il y a le principe de création de tout amour possible dans le Bereshit. puisque l'union hypostatique, le Verbe de Dieu, la sagesse créatrice de Dieu, née sagesse créatrice de Dieu dans le Verbe, qu'à partir du moment où il s'est hypostasié, la matière primordiale, la matière possible, la matière, la possibilité de tout amour à l'intérieur d'une matière vivante et existante dans l'univers. Ce que nous avons déjà vu. Mais aussitôt que le principe est établi de la puissance créatrice de Dieu, toute possibilité d'amour, en réalité, Dieu ne va pas créer toutes les possibilités d'amour dans la création, seulement quelques-unes très limitées. Mais les possibilités de création d'amour qui sont dans le Bereshit sont infiniment plus, tout à fait infiniment, beaucoup plus qu'infiniment, plus importantes en quantité, en qualité, et en intensité, et en compréhension, et en substance, que ce qui s'est fait en fait. Aussitôt que le monde angélique est créé, parmi eux, il y a un ange d'amour, un ange qui devient amour, qui est lumière, mais qui voit qu'il y a une compénétration, une relation, un passage de l'un dans l'autre jusqu'à la complète unité entre les deux. Il comprend que ça ne peut se faire que dans un amour où sa propre lumière disparaît et s'efface. C'est un ange d'amour victimal éternel. Il est un petit prêtre. Sorte que quelque part, là, Melchisedec, faut apprécier l'ange sacerdotal parce que il faut mettre son regard sur son, sur sa présence, sur ce qu'il est. Il est tellement prêtre qu'il s'adapte. Et il s'adapte. Et alors, comme il s'est adapté, tout ce parcours que va faire Melchisedec à l'instant de la création, dans la sagesse de la croix, à l'instant de la création du monde, à un moment de la chute angélique. C'est dans la chute angélique que lui, bien sûr, voit qu'il faut une médiation victimale d'amour pour qu'il n'y ait plus que dans l'amour victimal éternel la réconciliation de tout ce qui sera à reprendre dans l'amour victimal de Dieu lui-même, dans la coopération avec le monde angélique, avec le monde de la matière vivante des hommes et des enfants de Dieu. Et alors, il faudrait qu'on lise, j'ai envie de vous lire ça, si ça vous va bien, en même temps qu'on a le repas le soir, pourquoi pas. On pourrait lire ce parcours de Melchisedec dans la création. Un paradis originel, dans le parcours d'Abraham, sur la terre d'Israël, sur la terre promise, comment Melchisedec, le roi Melchisedec, se manifeste et prend par le dessous la terre déchue pour y faire un dépôt. Et le fameux dépôt dont nous avons parlé, il le met déjà dans la matière avant que la création ne se manifeste dans la présence humaine. Et Melchisedec va préparer les lieux. Vous savez que le centre de la terre, quand il y avait le firmament d'en haut et le firmament d'en bas, la terre était comme une fleur et entourée des eaux. Il y avait en fait un seul continent et puis il y avait des eaux qui étaient tout autour. Et tout ça, ça faisait la terre. Et au milieu de cette fleur, au milieu de la terre, Melchisedec a participé dans le miracle des trois éléments à la construction de la terre au-dessus des eaux, dans la séparation du firmament des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, à la constitution d'un centre d'amour dans la matière de la terre. C'est lui qui a mis ce dépôt à Jérusalem, à ce qui est devenu ensuite Jérusalem. Et vous savez, quand il y a eu le déluge a fait tomber parce qu'il y avait un anneau à queue, un petit peu comme on voit dans certaines planètes. C'était dans les temps très reculés, n'est-ce pas? Il y avait un anneau à queue. Et quand il y a eu cette rupture, ce déplacement des actes, des axes du globe terrestre, parce que là, il y a fait une condensation, et ces os, les eaux d'en haut, hein, et les eaux d'en bas, les eaux d'en haut sont condensées. Et ça fait 1000 mètres d'eau supplémentaire dans les océans. Alors, il y a eu en même temps des ruptures. Et ceci d'un seul coup, on sait très 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 bien où ont eu lieu les ruptures, combien de temps ça a pris. Et en tout cas, quand on fait aujourd'hui des analyses océanographiques et qu'on fait descendre les eaux des océans de 1000 mètres, on réobtient une surface qui est homogène avec Jérusalem au centre. Melchizedek a joué ce rôle d'anticiper, de préparer, dans le respect, dans la liberté, dans la patience, dans le temps, ce sacerdoce victimaire, en déposant ce dépôt de lumière, de l'absolution. Il faudrait faire toute une contemplation de ce qui se passe à l'intérieur du Bereshit au moment de la création du monde angélique. Il y a des midrashs tout à fait remarquables, absolument extraordinaires, parce que le Messie a expliqué ça à Moïse. Alors il y a le midrash du Messie à Moïse pour expliquer ce qui se passe dans le Bereshit. Ce qu'il y a dans le Bereshit. Mais une des 8 choses qu'il y a dans le Bereshit, c'est qu'au cas où les créatures spirituelles innocentes, pures, préfèrent se séparer de Dieu en sortant de sa volonté, en ne vivant plus de sa volonté éternelle d'amour, en se désunissant de lui, qui est à ce moment-là la possibilité d'un sacerdoce victimal rédempteur d'amour, où Dieu fera tout ce que ces créatures, tout ce que ces êtres libres ont voulu surtout ne pas faire pour combler les espaces et rendre possible à nouveau pour l'éternité l'union parfaite de l'autre dans l'un et de l'un dans l'autre. L'un, c'est la relation à l'autre. Je dis l'un parce que c'est l'origine. Et l'autre parce qu'il y a un sacerdoce victimal d'amour. Alors, ce dépôt, et alors il est dit dans Moïse, expliqué à Moïse dans le Midrash sur le Bereshit, dit les anges, c'est le curieux, il dit les anges, dit mais s'il y a une séparation, le péché, et même pour le monde angélique, parce qu'à ce moment-là, il n'y a toujours pas d'être, il n'y a toujours pas l'homme. Il n'y a toujours pas l'univers. Il y a juste la matière primordiale, la possibilité, toutes les possibilités d'amour total, substantiel et spirituel à travers les éléments de matière dans le temps. C'est possible. Alors Dieu dit, il faut la miséricorde dans le Bereshit. Et Dieu inscrit en 8e dans le Bereshit la miséricorde. C'est-à-dire cette victime, cet amour victimal éternel. Et il est précisé dans le Midrash, alors la vérité fut jetée dans la terre. Le Verbe doit s'incarner. Et ça, c'est la parole de Melchizedek. Il dit, mais s'il y a la chute, puisque possibilité de dire moi je préfère le péché, Seigneur, tu dégages, moi en tout cas je dégage de toi. S'il y a ça, donc le rôle de Melchizedek n'est pas un petit rôle, vous voyez, qu'il y a eu. On a dans le Midrash rabbinique, et alors à ce moment-là, la vérité fut jetée à terre. C'est magnifique de savoir que le Verbe de Dieu est jeté à terre, plongé dans la terre à cause de la miséricorde, avec cette possibilité donc d'amour de Jésus, rédempteur, de l'union hypostatique dans la nature humaine, complétant, assurant tous les espaces de séparation dus au mal, au péché. Oui, sauf pour ceux qui rejettent totalement la possibilité de quelconque miséricorde, même avec la puissance du Saint-Esprit qui leur serait donnée. Alors ça, un péché contre l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas obliger quelqu'un. Ça, c'est sûr. Et donc ça sort de Melchisédek, du coup, ce dépôt le reçoit parce que un ange est une contemplation, un espace intérieur. C'est une intériorité sans intériorité, puisque c'est une intériorité qui n'a aucune limite. Nous, par exemple, quand nous contemplons, et puis c'est lié à notre intelligence. Là, c'est là. Moi, quand je contemple, c'est ici, vous voyez. Mon intériorité contemplative, vous pouvez la repérer, elle a un tabernacle, et il est limité par le corps. Tandis que quand un esprit pur, il est comme Dieu. Un esprit pur est comme Dieu. Il est partout, il est pour toujours, et il est sans aucune limite dans sa vision intérieure. Il n'y a aucune limite à son vision intérieure, à sa pénétration intérieure, ni devant, ni derrière, ni en profondeur, ni en largeur. Et tous les esprits angéliques sont comme ça. Et il n'y a pas un ange qui est pareil à un autre ange. Aucun de ces contemplations de lumière intérieure, d'extase, de ravissement, d'assimilation de la vie de Dieu, aucun d'entre eux n'est semblable à un autre. Par sa propre substance. C'est pourquoi il est dit dans le catéchisme de l'Église et des Juifs, et dans saint Thomas d'Aquin, que chaque ange est substance seulement différent de l'autre. Il y a une différence d'espèce d'un ange à un autre, tandis que les êtres humains sont la même espèce. Nous sommes tous de la même espèce, spécifiquement, substantiellement, on a tous exactement la même puissance spirituelle. Tous un intellect agent de vie contemplative de même nature. Un cœur divin, un cœur spirituel, un cœur surnaturel, et un cœur dans l'un et dans l'autre, de la médiation accomplie du Verbe qui s'est jeté dans la terre, de même nature. Donc il y a les esprits vivants des fils de Dieu dans la chair, qui sont nous, qui constituent une nature humaine. Et il n'y a qu'une seule substance dans la nature humaine, je veux dire, il n'y a qu'une seule espèce. Au-dessus de nous, l'ange le plus petit, c'est l'espèce au-dessus. Alors là, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus capacité d'amour que nous, liberté sans comparaison. Mais s'il y a un ange supplémentaire, et Dieu sait qu'il y en a des centaines de milliards, il est d'une espèce encore différente par rapport à ce premier ange. C'est une espèce encore supérieure. Et la différence qu'il y a déjà entre l'esprit humain et puis déjà un esprit angélique même, un ange, quoi, de la première hiérarchie, tout premier, c'est déjà abyssal, la différence. Hein? Le deuxième ange, regarde la différence qu'il y a entre, par exemple, une fleur et une colombe. Colombe, c'est quand même plus qu'une fleur. Il y a des gens qui préfèrent avoir une fleur qu'une colombe. C'est sûr. Regardez la différence qu'il y a entre une colombe et un être humain, tout de même. C'est quand même plus grand, un être humain, que toutes les colombes de tous les temps. Un ange, c'est plus grand que, du point de vue de la dignité, du point de vue de la lumière, du point de vue de la capacité d'amour, c'est plus grand que la nature humaine. Regardez la différence, on dirait. Regardez la différence, disait. Un jour, j'ai entendu un père dire ça. Regardez la différence qu'il y a entre un éléphant et un être humain, du point de vue de l'espèce, de la manifestation spirituelle. C'est du passé du noir au blanc, quoi. Maintenant, vous passez de l'être humain, c'est-à-dire nous, à l'ange. C'est le même saut, puisqu'il y a une différence d'espèce. Puis d'un ange à un autre ange, encore une différence d'espèce. Et ceci, des centaines de milliards de fois. Vous voyez ce que c'est qu'a fait un séraphin, là-haut? Là-haut, là. C'est étourdissant, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et Dieu est absolument, substantiellement et infiniment plus grand que tous les anges réunis et tous les hommes. inaccessible à aucun d'entre eux, du point de vue de son essence, Dieu. Il y a une hiérarchie. C'est important de dire ça en démocratie, à une période d'élection. C'est pas du tout fraternité, égalité, liberté. Il y a une hiérarchie. Il y a une royauté. Une monarchie. Il y a un principe. Monarchie. Dieu est un. Et il est roi d'amour et de lumière. Melchisedec est roi d'amour et de lumière. C'est un de ces anges-là. C'est un ange sacerdotal. C'est un ange de domination. Remarquez bien ceci, vous voyez, c'est que quand Dieu a créé le monde angélique, ils ne sont pas rentrés. Oui, il n'y a pas de question de temps aussi, hein. Il faut reconnaître, c'est une question d'antériorité spirituelle et métaphysique. Mais, disons, dans l'antériorité, non pas temporelle, mais métaphysique et spirituelle, angélique, contemplative, au départ, Dieu crée cette hiérarchie, c'est-à-dire l'ange. Dans la plénitude de l'espèce angélique. Donc des anges, des archanges, des principautés, des puissances, des vertus, des dominations et des trônes. Des trônes glorieux. Et l'adhésion de leur oui à ce fait que dans le Bereshit, qu'ils contemplent à leur manière chacun d'entre eux, c'est-à-dire d'une manière très intense, dans une clarté parfaite, semblable, parfaitement semblable à celle de Dieu, ils comprennent tout de suite ce que c'est que la miséricorde, ce que c'est que la possibilité, ce que c'est que le fait, ce que Dieu va faire, parce que dans son amour, il va s'associer substantiellement toutes les possibilités d'intégration de ce qu'il y a de plus ténébreux dans la ténèbre, de plus infernal dans la réprobation. Par amour, victimal, éternellement. Et alors, eux disent, on va faire pareil. Regardez, pour nous, c'est difficile d'accepter la souffrance. On hésite quelquefois à se jeter dans la fournaise plutôt que de faire un seul péché. Regardez tous ces saints qui sont jetés dans un brasier ardent plutôt que... C'est toutes ces femmes, c'est des milliers de femmes qui ont Sainte Apolline, Sainte Agathe, sont jetées dans la fournaise plutôt que d'être touchées dans leur pureté, parce que Dieu aime la pureté. Il y en a qui hésitent à faire ça. Il y en a qui hésitent à faire ça. Moi, me jeter dans un feu pour brûler plutôt que d'être abîmé dans ma pureté par un violeur. Il y en a qui hésitent. Il y en a qui hésitent devant la croix, il y en a qui hésitent devant le martyr. Si moi je veux pas martyr, je veux pas souffrir. Moi je veux pas avoir d'inconvénients. Je veux bien rendre service à la condition que j'ai aucun inconvénient. J'empoche le mérite de la dignité, du bien que je fais, mais surtout pas de croix, surtout pas de souffrance. Comme Dieu ne pas me chatouiller en disant mais alors, c'est merveilleux. Tu verras la souffrance, alléluia. Oh ben alors, je vais lui casser la gueule à celui-là. Vous voyez bien. Tu n'aimes pas les reproches. Tu murmures. Pour nous, la souffrance, c'est quoi? C'est rien. Mais pour le monde angélique, de descendre dans l'offrande victimale du Verbe qui est tombé dans la terre, qui est jeté en terre. Pour des pécheurs éventuels. Oh non, alors. C'est beaucoup plus dur pour eux. Il leur faut une dose d'amour, quand on dit infiniment plus grande que celle qu'il faut pour un être humain, c'est presque pas juste, parce que c'est substantiellement plus grand. La substance est plus grande que la quantité. Donc, il y en a qui en disent non. Hein. Moi, je préfère être dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu sans les hommes, hein. L'amour de Dieu sans les... Ah non, ça, non, non. L'amour de Dieu et l'amour du monde angélique lui-même et de l'amour de moi-même, l'amour parfait, l'amour de l'autre et de moi-même. Oui, ça, oui, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais pas là, mais pas là, pas, pas non, 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 pas l'amour victimal, d'amour, non. Et ça a donné, ils sont séparés du projet d'amour victimal éternel de Dieu. Et ça a donné Lucifer. Lucifer est un être rempli de lumière et d'amour parfait. De Dieu. Il dit Dieu, je l'aime tellement que je ne veux pas. Je me rappelle quand je faisais de l'accueil de marginaux de drogués. Je me rappelle d'un Patrick qui était champion de France de boxe thaïlandaise. Mais moi si j'étais là avec Jésus, si j'avais été là, mais genre rentre dans l'arbre, c'est pour ce pilage, je cassais la gueule. Écrasé, tous les soldats qui étaient là-bas, j'aurais empêché ça, moi. Hein? Et t'aurais fait comme Lucifer. Parce que je dis, tu aurais fait comme Lucifer, parce que Lucifer, il veut pas que Dieu vive la croix, l'amour victimal éternel, dans la joie profonde et sourde de son don. Marie, elle a tout fait pour que Jésus soit livré. Le Père a livré son Fils. L'Esprit Saint a brûlé le cœur de tous les hommes pour que Jésus puisse être une offrande victimale d'amour. Melchisédek aussi. Et Melchisédek, dans le parcours du temps, est du coup présent à toute évolution de la matière. Et à chaque fois que il y a des différences spécifiques tout à fait importantes, substantielles qu'il y a dans notre univers, l'apparition de l'homme, eh bien, il va y avoir Melchisedec sera à apparaître. Le fameux dépôt qui est déposé quand le doigt de Dieu ouvre le côté d'Adam pour sortir la splendeur dans cet ordement, hors de lui, de la créature sponsale. Qui est l'image ressemblance pour ça de Dieu. Elle est présentée devant lui et qui met à la place de ce qui a été enlevé le dépôt dont nous avons parlé. Le dépôt de lumière et de vie, de l'absolution vivante. On peut dire aujourd'hui, brûlé dans la matière tachyonique transfigurée du Bereshit. De l'union hypostatique primordiale. Qui est-ce qui a mis ce dépôt? Qui l'a retiré d'Adam? Qui l'a conservé? Qui l'a replacé comme on traverse ici le côté d'Abraham? Comme le Christ a traversé les portes du Cénacle sans l'abîmer pour y laisser ce dépôt, etc. On va lire, si vous voulez bien, on lira ça. C'est magnifique. Ce dépôt. C'est quoi ce noyau, cette palpitante présence réelle, substantielle et transsubstantielle de cette palpitante miséricorde primordiale de Dieu qui devient une présence primordiale dans l'accomplissement de ce qu'elle réalise. Dans l'offrande victimale éternelle d'amour de l'aube de la résurrection, qui vient palpiter à l'intérieur de la substance, de la transsubstantiation eucharistique, et qui cette fois-ci se dépose en nous, chaque jour. Qui? Vous voyez, et Melchisedec, c'est quand même quelqu'un qui pour nous doit devenir quelqu'un de très important. Dans le miracle des trois éléments, il doit devenir quelqu'un de très important. Parce que le corps mystique de Dieu, de l'un dans l'autre, est hiérarchique, royal, sacerdotal, éternel. Et on le dit à la messe, hein, dans le canon, comme l'offrande. s'il a pu faire cette offrande, c'est à cause de ce dépôt qui était là et qui a fait que l'union hypostatique est devenue messianique en Abraham. L'union hypostatique est devenue messianique à cause de ce dépôt. Et il a pu du coup offrir le Fils, l'engendrer de Dieu en lui miraculeusement. Pour la rédemption du monde entier. Et quand le Père a vu ce Père dans son Fils, dans l'union hypostatique de son Fils, offrir le Fils qui était le sien venu de Dieu, le Père n'a pas pu faire autrement que d'envoyer son propre Fils. C'est parce que si l'homme l'a fait, moi Dieu, le Père, je le fais aussi. C'est la foi. Dieu suit la foi. Dieu attend la foi et il suit la foi. C'est pour ça qu'on dit à la messe, Abraham le sacrifice que t'offrit Abraham, c'est le sacrifice messianique de l'union primordiale du Verbe de Dieu jeté en terre hein, qu'il a offert. Il l'a fait en communion avec Melchisédek, avec tout le monde. Et il a eu la force d'amour pour le faire dans l'instant et pour l'éternité, Abraham. Il n'a pas Dieu en lui et la grâce en lui ont fait quelque chose d'inouï. Et du coup, on peut dire ceci. C'est que Abraham, comme Abraham, notre père, et on dit ensuite, Melchisédek, ton grand prêtre, signe du sacrifice. Et Melchisédek fait la même chose avec Abraham et avec nous et avec Marie et avec la mère, avec l'Eucharistie accomplie des derniers temps, les noces de l'agneau. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Melchisédek, c'est qu'il fait l'unité de l'autre dans l'un dans l'autre. Donc tous les sacrifices d'Abraham, des noces de l'agneau dans la messe accomplie, dans le sacrifice de l'accomplissement, celle de l'union hypostatique de Jésus-Christ sur la croix, celle de ce sacrifice de Jésus-Christ dans la transverbération de Marie qui renouvelle du coup la présence réelle de ce sacrifice dans tous les sacrifices eucharistiques, toutes les messes de tous les temps, jusque dans l'au-delà des noces de l'agneau. Melchisédek, lui, dans l'immensité de l'accomplissement de son sacerdoce d'amour éternel, rend présent dans l'un, dans le sacrifice eucharistique, l'immensité de vastitude de cet amour victimal éternel. Vous comprenez? Et du coup, c'est toute la création qui s'efface dans le sein du Père pour que ce sacrifice soit absolu. Dans l'un créé, des relations d'amour entre l'épouse, le Verbe de Dieu, la sagesse incarnée et vous. Qui fait que c'est un sacerdoce d'amour substantiel, agréé. En même temps actif et passif. Les deux. Alors nous avons un logement contemplatif de lumière, né de la lumière, grâce à Melchisédek. Melchisédek, c'est ce sacrifice victimal d'amour sans limite. Parce que je vous l'ai dit, les anges, c'est une contemplation sans limite. Alors, au départ, les anges, au départ, attention, c'est pas au départ, et puis après, quelques secondes après, et puis quelques secondes. Non, c'est au départ au sens de l'antériorité métaphysique. Parce qu'il n'y a pas de temps à l'époque, à ce moment-là. Dans la preuve angélique, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas pour les preuves angéliques. Puisque les anges sont enveloppent tous les temps. Ils sont au-dessus du péraste de l'univers, vous voyez. Entre parenthèses, je vous signale. Quand on regarde une spiritualité soi-disant angélique, par exemple cosmique, bouddhiste par exemple, on ne va pas plus loin que le péras, le feu qui enveloppe l'univers, le tout. Et on parle quelquefois dans ces spiritualités cosmiques des anges qui sont dedans. Mais les anges qui sont dedans sont des anges déçus. Les anges qui sont dedans sont des anges déçus. ils n'étaient pas destinés, au moment de leur création, à être dans le temps. Ils étaient destinés à être hors du temps. De toute façon, l'ange enveloppe le temps. Donc les anges qui sont restés, disons, de nature lumineuse et d'amour, ont été glorifiés. Et non seulement on continue à envelopper le temps, mais en plus, émanent dans l'au-delà, dans la lumen gloriée, dans les processions de la très sainte Trinité, au-delà du monde angélique lui-même. Et donc dans la spiritualité bouddhique, tout ce que vous voulez, la spiritualité, on parle du monde angélique cosmique, c'est forcément uniquement des anges de lumière et d'amour, déchus. Mais cette lumière est si forte, cette unité, cette compassion est si puissante qu'elle impressionne. C'est un piège pour ceux qui ont choisi le péché. Il faut choisir l'humilité, la pureté, la virginité et cet élan d'amour qui fait qu'on est à l'intérieur du désir et de l'amour d'un autre, dans l'obéissance brûlante d'amour. Il faut ces trois-là pour échapper à ce piège. En tout cas, une chose est sûre. C'est que tous ces anges qui ont dit oui, aussitôt, sont passés dans le Verbe de Dieu, par la petite porte étroite du Verbe de Dieu, dans son amour rédempteur. Et ils ont été immédiatement, instantanément, brûlés par la lumière de glorie qu'ils ont introduit à travers boum. Et extravers boum entre eux, dans une unité de coopération et d'amour, je ne vous dis pas. Complètement dingue. Parce que si vous regardez le intra-verbum et le extra-verbum, c'est-à-dire la gloire du monde angélique entre eux, oh, Melchisedec est là au milieu de tout ça. C'est celui qui introduit. Et Saint-Michel Archange, si je puis dire, Saint-Gabriel, tout ça, Raphaël sont des anges, eux. Selon l'espèce, Melchisedec, c'est une domination. Lucifer, c'est un trône. C'est au-dessus. Lucifer, c'était un trône. Chut, lui, est tombé. La domination s'est effondrée dans l'offrande victime. Et du coup, il a été glorifié. Et il est devenu cet espace d'amour victime à l'éternel pour tous les anges, hein, et pour tous les hommes, et pour toute la création, et pour le Christ dans sa nature humaine. Il a donné donc une amplitude angélique sans limite à l'offrande du tout petit qui est Jésus. Parce qu'il est devenu le plus petit de tous. Le Verbe de Dieu. Et du coup, il a mis le dépôt il pouvait placer donc ce dépôt en Adam. Dans Isaac, Jacob et Joseph, fils de Jacob. Il a déposé, j'en suis sûr, moi. Ça, c'est pas dit dans les midrashs, tout ça, mais dans la tradition. Mais c'est évident qu'il a mis ce dépôt dans l'au-delà de l'unité sponsale de Marie et Joseph le jour du mariage. C'est évident. C'est évident. Parce que là, il y a un nouveau Bereshit qui s'est établi. Auparavant, il l'avait mis ici, dans le Père de l'Immaculée Conception. L'ayant retiré de l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire la sagesse immaculée de l'absolution présente de Marie, hein, avant qu'elle n'existât. Tout ça, c'est des choses merveilleuses. Merveilleuses. quand l'Immaculée Conception est là, ce dépôt n'a plus lieu d'être. L'Immaculée Conception, c'est l'absolution, c'est la miséricorde, sans limite d'espace, sans limite de temps, sans limite d'intensité, sans limite d'amour, dans l'incarnation de la femme et de la vierge, à l'état de créature, la plus petite qui soit. Et elle nous est donnée ici, nous, en dépôt, dans tous les sacrements. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la transverbération. Dans la cinquième demeure, je m'excuse, mais dans la quatrième demeure, je suis convaincu que le dépôt n'y est pas encore. Il me semble. J'en suis pas sûr. Je veux dire par là, c'est pas dogmatique. Mais en tout cas, dans la messe, il intervient. Le roi de paix, l'amour victimal éternel, angélique sans limite. Il saisit notre foi pour nous immoler avec le Christ et recevoir l'immolation victimale d'amour du Christ en nous. Quand on dit, voyez, quand on dit, regardez, quand on dit, voyez, vous avez remarqué la prière qu'on fait à la messe, tout de suite après la consécration. On dit, voilà, on dit, hostie vivante, qui vous donnez pour nous, victime justifiante. Cette prière que vous avez entendue peut-être, c'est la prière des apôtres après la consécration. Elle est gardée dans le rite copte, celui que les chrétiens de Syrie, les chrétiens d'Égypte, ceux qu'on veut massacrer avant la fin de l'année, ceux qui ils ont décidé, ils n'y arriveront peut-être pas si on prend autorité, ça dépend de nous. Mais n'empêche qu'ils veulent ce génocide des chrétiens de Syrie. Dans la liturgie copte, la liturgie, c'est ce qui est dit. Saint Charbel, par exemple, à chaque messe, il se met à genoux. C'est quand on a consacré la croix glorieuse, vous savez, au Liban, de 73 mètres 80, l'évêque était là, maronite. Hop, les évêques aussi orthodoxes du coin, tout le monde était là. La femme du président de la République, tout le monde était là. L'ambassadeur de France, le représentant de la République française. Quand on pense tous les milliards qu'ils ont dépensés pour empêcher qu'il y ait des croix glorieuses en France, tout le monde était présent. Voilà. C'est extraordinaire ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'est mis à genoux, tous les prêtres. Et puis à la consécration, allez voir, ils disaient cette prière. En araméen. Moi, j'avais pas le texte. Puis en plus, je sais pas lire mais ça donne ça. Agneau immaculé, vous présentez vous-même à votre Père, victime justifiante, prêtre de votre propre sacrifice, que notre prière au Christ soit par votre bonté à l'intérieur de nous, comme l'offrande victimale que vous faites de tout vous-même à votre Père. Notre prière, c'est l'offrande victimale d'amour éternel du Verbe de Dieu, en communion avec tout le monde angélique victimal éternel de Dieu qui a puisé dans lui cette offrande, cet amour victimal éternel. Et on se présente tous dans l'un, dans l'unique substance absolue, victimale éternelle d'amour au Père, et le Père se nourrit de ça. Essayez de vivre ces paroles-là sans Melchisédek. Moi j'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est la liturgie, hein. La liturgie, l'Église d'infaillible dans sa liturgie, hein, de Saint Abraham. Hein. Ça lui offrit un bel, le juste Abraham. Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Sacrifice pur. Ouais. Au fond, avec Melchisédek, c'est sans limite, avec la même intensité. Et avec Jésus, le Verbe incarné, l'union hypostatique déchirée, c'est substantiel, c'est absolu. Ça rentre dans la créée. L'Église hiérarchique, il faut passer par la hiérarchie royale d'amour. Il faut aimer Dieu, le royaume. Il faut aimer Dieu et le roi. Je vous avoue que, avant de venir ici, à la séance-ci, c'est, enfin, bon, je crois que c'est le bon Dieu. Il faut absolument expliciter l'Eucharistie. La messe. Parce que si on n'explicite pas l'Eucharistie, on ne peut pas rentrer dans cet amour victimal. Donc comment faire pour prendre autorité d'amour sur le mal et le faire disparaître? Je veux dire que jusqu'à maintenant, on n'a fait que l'introduction. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.